Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
La Chine est depuis quelques années le point de mire de tous les regards et Franck Ferrand s'y intéresse lui aussi. Ni hao, bonjour Franck.
Bonjour Fatima, moi je ne sais pas dire ça. Bonjour à tous. On s'intéresse surtout à la Chine d'un double point de vue économique et politique, évidemment. Mais la question du patrimoine chinois et de sa préservation ressurgit de temps à autre. Et ce matin même, le site du Parisien.fr citait un article de l'AFP dont le titre est éloquent. En Chine, rénover le patrimoine signifie raser d'abord. Cet article assez passionnant, pour tout vous dire, évoque la pratique de la qianenmisation qui consiste à raser des vestiges importants puis à les reconstruire ensuite plus ou moins à l'identique. Aujourd'hui, c'est un des principaux chefs-d'œuvre de la culture chinoise, en grande partie détruit par les Occidentaux, que j'aimerais évoquer, le légendaire palais d'été.
Et vous le faites en vous appuyant aujourd'hui sur le récit d'un témoin de ce drame.
En effet, les éditions France Empire viennent de republier le récit du comte d'Hérisson sur la destruction du palais d'été. L'éditeur lui-même, Jean Castared, est avec nous pour répondre à vos questions et nous irons aussi faire un tour du côté du musée chinois du château de Fontainebleau.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
La Chine de 1860 n'est pas encore la superpuissance ultradynamique que nous connaissons. C'est une Chine d'or et de soie, de lac et de porcelaine, d'encre et de sang. Au nord-ouest de Pékin se trouve alors un palais d'une taille et d'une richesse indescriptibles. C'est à l'échelle d'une ville la résidence estivale de l'empereur de Chine, autant dire le fils du ciel, le palais d'été, en français quand je dis d'été, le palais de la saison de l'été, Yuan Min Yuan en chinois, je ne sais pas du tout prononcer ça, mais enfin voilà ça, en gros ce que ça doit donner. Il se compose de quelques 36 vastes pavillons ordonnés au sein d'une enceinte de 40 km de circonférence qui enserre des lacs fleuris, des jardins sublimes, avec ça des pagodes, des kiosques, des temples, tous plus raffinés les uns que les autres. Le palais des bannières, il est rouge écarlate et vert d'eau, avec les toits dorés à leur fin. Le palais du grand pont, à l'issue d'une énorme passerelle de marbre sculpté, est là qui vous accueille le palais de la méditation, avec ses grands mâts à pavillons de soie jaune, le jaune étant le safran, vous savez, la couleur de l'empereur. Le palais des femmes, autour d'un canal cruciforme, et puis le palais d'Europe, construit vers 1750 sous l'impulsion de missionnaires jésuites et qui voulait s'inspirer directement de Trianon et du style versaillais. Sans oublier, bien sûr, le palais impérial, admirable, avec ses colonnades de pourpre et d'or, ses gigantesques brûle-parfums de bronze doré, sa bibliothèque de manuscrits rares, des manuscrits qui sont rangés là par dizaines et par dizaines de milliers. Nous possédons une description livresque et poétique des lieux, description due à Victor Hugo en personne et qui mérite que je vous en livre ici quelques extraits. C'est Victor Hugo qui parle, ou qui plutôt qui écrit. « Il y avait dans un coin du monde une merveille du monde. Cette merveille s'appelait le palais d'été. Imaginez on ne sait quelle construction inexprimable, quelque chose comme un édifice lunaire, et vous aurez le palais d'été. Bâtissez un songe avec du marbre, du jade, du bronze, de la porcelaine. Charpentez-le en bois de cèdre, couvrez-le de pierreries, drapez-le de soie, faites-le ici sanctuaire, là harem, là citadelle, mettez-y des dieux, mettez-y des monstres, vernissez-le, émaillez-le, dorez-le, fardez-le, faites construire par des architectes qui soient des poètes les mille et un rêves des mille et une nuits, ajoutez des jardins, des bassins, des jaillissements d'eau et d'écume, des cygnes, des ibis, des paons. Supposez, en un mot, une sorte d'éblouissante caverne de la fantaisie humaine ayant une figure de temple et de palais, c'était là ce monument. Il avait fallu pour le créer, écrit Victor Hugo, le lent travail de deux générations. Cet édifice qui avait l'énormité d'une ville avait été bâti par les siècles. Pour qui ? pour les peuples. Car ce que fait le temps appartient à l'homme. Les artistes, les poètes, les philosophes connaissaient le palais d'été. Voltaire en parle, on disait le Parthénon en Grèce, les pyramides en Égypte, le Colisée à Rome, Notre-Dame à Paris. Le palais d'été en Orient. Si on ne le voyait pas, on le rêvait. C'était une sorte d'effrayant chef-d'œuvre inconnu, entrevu au loin, dans on ne sait quel crépuscule, comme une silhouette de la civilisation d'Asie sur l'horizon de la civilisation d'Europe. Eh bien, ce monument, les vicissitudes de l'histoire vont en venir à bout. Les vicissitudes de l'histoire, ou pour être plus précis, la soldatesque franco-britannique, puisque ce sont bien les troupes de la reine Victoria et de l'empereur Napoléon III qui sont venues saccager ce chef-d'œuvre. Et l'on peut dire que le sac du palais d'été aura été le point d'orgue d'un long malentendu entre l'Occident tout jeune, trop jeune, et le vieil Orient extrême.
Gravi, enormi ed impotenti, c'était un extrait de Turandot, l'opéra de Giacomo Puccini.
Tout avait commencé en 1839 à propos d'une affaire d'opium. Les Britanniques, pour des raisons commerciales, importaient en Chine, vous savez, de grosses quantités d'opium. Le gouvernement impérial était bien décidé à lutter contre ce qu'il regardait comme un fléau et il prend à ce moment-là la décision de jeter à la mer 20 000 caisses de cette drogue. Pour l'Angleterre, il y a là un motif de guerre. La supériorité militaire des pays occidentaux est telle à l'époque que la Chine n'est pas de taille à lutter. Elle s'incline et signe à Nankin un traité au terme duquel 5 ports, dont Shanghai, resteront désormais ouverts aux Britanniques et aux Américains. Par ailleurs, le port de Hong Kong est cédé pour un siècle et demi à la Grande-Bretagne. On a vu la fin de cet accord il y a quelques années maintenant. 2 ans plus tard, en 1844, la France obtient les mêmes avantages auxquels s'ajoutent des clauses religieuses visant à protéger les missions catholiques. Mais en 1856, un missionnaire est torturé. Pire aux yeux des Occidentaux, quand je dis pire, c'est même, ça fait un scandale considérable en Europe, une jonque battant pavillon britannique est capturée à Canton et dans la foulée, plusieurs comptoirs anglais sont incendiés. La riposte ne se fait pas attendre. 2 escadres, l'une anglaise, l'autre française, bombardent Canton, puis se précipitent dans l'embouchure du pays haut et remontent jusqu'à Tianjin. On n'est plus là, Tianjin, on est à 130 km de Pékin. La cour de Chine, à ce moment-là, prend peur. Un traité est signé en juin 1858 qui octroie de nouvelles prérogatives, qui ouvre aux Occidentaux de nouveaux ports. Il faut trouver des débouchés aux nouvelles industries d'Europe. Ça tombe bien, ce traité. En fait, il faut bien dire que les Anglais surtout, mais les Français pas loin derrière, n'envisagent à l'époque, et déjà, si je puis dire, la Chine, que sous un angle très commercial. Les diplomates délégués par Londres et Paris sont Lord Elgin et le baron Gros. L'échange des ratifications aurait dû n'être qu'une formalité, mais en fait, quand les diplomates occidentaux se présentent à l'embouchure du pays haut, ils trouvent le fleuve barré. C'est une nouvelle épreuve de force et c'est de nouveau la guerre. Août 1860, une flottille anglaise et une autre française débarquent chacune un corps expéditionnaire. Les soldats britanniques sous les ordres de Sir Grant sont 12 000, les Français, commandés par le général Cousin Montauban, 8 000, autant dire une poignée d'hommes face à des millions de Chinois. Seulement cette poignée d'hommes maîtrise la guerre moderne. Voici comment leur parle le général Montauban. Un jour, en rentrant dans la mère patrie, vous direz avec orgueil à nos concitoyens que vous avez porté le drapeau national dans des contrées où la Rome invincible, au temps de sa grandeur, n'a jamais songé à faire pénétrer ses légions. Ce ne sont pas précisément ce qu'on pourrait appeler des intentions pacifiques. Grâce à leur artillerie, les Occidentaux prennent un premier fort aux Chinois. Trois autres vont se rendre dans la foulée. On a envie de dire, ça paraît évident, hein, c'est presque trop facile pour des soldats britanniques ou français de lutter contre cette armée chinoise suradministrée et engoncée à l'époque dans tous ses vieux codes d'honneur. À Pékin, la cour impériale est consternée. L'empereur Hung Fung publie un manifeste qui stigmatise l'invasion des barbares et qui leur promet une terrible punition. En attendant, les dix barbares, eux, s'en moquent. Le 22 août 1860, sans prévenir les Français, les Britanniques, ça c'est très anglais ça, remontent le fleuve avec un navire amiral et cinq canonnières. En deux jours, cette flottille est à Tientsin. C'est le moment que choisit le vice-roi local pour se rapprocher du représentant français, donc notre baron Gros. Des négociations s'amorcent. Les diplomates occidentaux déclarent qu'ils se contenteront de la confirmation du traité de 1859, assorti d'excuses en bonne et due forme. L'envoyé de l'empereur accepte tout ce qu'on veut, il n'est plus tellement en position de négocier, mais en vérité, il ne cherche qu'à gagner du temps. Il prétexte de l'absence du sceau impérial pour faire traîner les choses. Subtilité chinoise, efficacité occidentale, ce sont bien là deux civilisations qui, après des millénaires d'éloignement et d'ignorance, commencent à s'affronter. Sans se comprendre. Les alliés franco-britanniques décident alors de marcher sur Pékin. Une ultime entrevue avec des commissaires impériaux a lieu à quelques kilomètres de la capitale de l'Empire. Nous sommes là le 15 septembre. Le 18, c'est l'embuscade. Une délégation occidentale est attaquée par des Mongols. Les diplomates sont jetés à bas de leur monture. Ils sont attachés, saucissonnés, si je puis dire. Ils sont emmenés. Alors là, évidemment, ça c'est une provocation terrible. Les deux armées se mettent dès lors en ordre d'attaque. L'affrontement principal a lieu au pont de Palikao. 5000 Français, soutenus par une petite artillerie, et autant de Britanniques avec leur cavalerie, vont affronter une armée tartare de 30 000 hommes. Or, une fois de plus, s'impose la supériorité manifeste des Occidentaux dans les armes. Le colonel d'Hérisson, qui accompagne Montauban, déclare « Cette bataille faisait l'effet d'un rêve. On marchait, on tirait. » On tuait et personne n'était touché, ou presque personne. À 15h, les derniers escadrons tartares sont battus, les Occidentaux ont perdu moins de 10 hommes, les Tartares en laissent plus de 1000 sur le terrain. C'est un triomphe pour le général de Montauban qui sera titré comte de Palikao. Alors, que font les alliés au lendemain de cette victoire? Eh bien, ils décident de contourner Pékin et de foncer droit sur le palais d'été. À ce moment-là, l'empereur, le fils du ciel, a déjà quitté les lieux. Il a déserté la sublime cité pour gagner avec toute sa cour la province du Jeol. C'est son frère qui vient d'être investi de la régence, qui va traiter avec les chefs militaires occidentaux, traiter sans aucun succès. Aussi, les alliés programment-ils une descente sur le palais d'été le 6 octobre à 4h du matin. Et c'est là que le fameux saccage, que le pillage, que l'horreur va pouvoir commencer.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et aujourd'hui, Franck, vous nous parlez d'un joyau du patrimoine chinois, le palais d'été, et les armées anglaises et françaises sont aux portes du palais.
Et oui, et j'ai entre les mains le récit que le comte d'Hérisson a donné de cette destruction du palais d'été. Donc, c'était pas très loin de Pékin, en 1860. Une destruction du palais d'été qui vient d'être rééditée aux éditions France Empire. Le comte d'Hérisson, évidemment, comme le sera Victor Hugo, et avec un peu moins de lyrisme forcément, est ébloui par ce qu'il découvre. « Et je renonce, écrit-il, à peindre l'admiration et l'étonnement des barbares qui pénétraient au milieu de ces murailles. Involontairement, nous parlions bas, et commencions à marcher sur la pointe des pieds, en voyant amonceler avec une telle profusion ces richesses que leur propriétaire avait abandonnées dans la panique, avec la tranquillité d'un bon bourgeois qui tire sur lui la porte de sa demeure, laisse son mobilier en acajou exposé au hasard de la guerre. Les chefs militaires avaient visité le palais. Ils en sont rentrés, nous dit le comte d'Hérisson, les yeux brûlés par tout cet or. Mais ces officiers étaient accompagnés de sentinelles et les sentinelles n'ont pas pu s'empêcher de parler à leurs camarades. Vous vous imaginez tant de richesses offertes là à portée de main pour éviter de se laisser déborder. Grant et Montauban décident qu'elles seront partagées ces richesses entre les deux armées. C'est une sorte de butin en quelque sorte et ce sont les officiers français et britanniques qui procéderont au partage. Encore faut-il contenter la troupe, encore faut-il être capable d'empêcher la ruée, le déferlement en désordre des hommes enivrés par la soif de l'or. Je reprends le récit du colonel d'Hérisson. Les Français pillent au hasard, détruisent pour le plaisir, arrachent des pierres qu'ils croient précieuses, brisent des pendules à coups de hache, et où se précipitent sur les boîtes à musique, les horloges à sujets animés. Chaque troupier avait son oiseau, sa boîte à musique, son singe, sa pendule, son réveil et son lapin. C'était une sonnerie générale. Toutes les heures, dans tous les timbres, tintaient sans discontinuer, accompagnées de loin en loin du craquement triste d'un grand ressort surmené qui se brisait sous des doigts inexpérimentés. Des multitudes de lapins jouaient du tambour, formaient une basse, accompagnée de cymbales des singes. Aux 4000 romances et quadrilles fredonnées ensemble par autant de boîtes à musique et de serinettes que dominaient le roupiou-piou des oiseaux, les roulades des flûtes, le nasillement des clarinettes, le grincement des chanterelles entrecoupées, des rentrées de pistons et de cornemuses, et aussi des éclats de rire sonores de ces braves gens si faciles à amuser. Voilà pour le pillage. Mais les Occidentaux ne devaient pas s'en tenir là. Rappelez-vous ce qui s'était passé le 18 septembre, la délégation de ces diplomates qu'on avait arrêtés, emmenés. Eh bien, les Chinois conservaient 39 prisonniers. Ils en rendent 8 le 8 octobre, 9 le 12. Ces rescapés parlent de mauvais traitements, certains même de torture. Et bientôt, on va apprendre que 22 des otages, dont le correspondant du Times, sont morts. C'est à titre de représailles que Grant propose alors d'incendier le joyau de la cour impériale, le palais d'été. Côté français, on s'inquiète de ce projet, on va même chercher à l'empêcher. Le général de Montauban refuse de prendre part à une opération entre guillemets dirigée par un esprit de vengeance. Ainsi, les Français ne participeront pas autant au saccage, semble-t-il, que les Britanniques. On va essayer d'éclaircir toute cette histoire. Ce qui est certain, c'est que après le départ des Occidentaux, ce qui reste du palais d'été n'est pas vraiment très beau à voir. Alors voilà les questions que pose justement le comte d'Hérisson dans son récit. Il nous dit « J'aborde ici un point délicat de l'histoire de la campagne de Chine, un épisode sur lequel la vérité entière n'a jamais été dite, un incident controversé qui a fourni aux écrivains et aux orateurs l'occasion d'écrire et de dire bien des fantaisies, bien des bêtises, bien des calomnies. » Et il pose les bonnes questions. Qui est l'auteur responsable de ce pillage et de cet incendie? Pouvait-il être évité? Ce pillage était-il contraire aux lois de la guerre? Qui en a profité? Un des deux alliés a-t-il frustré l'autre? Voilà bien des questions, dit le comte d'Hérisson, bien des questions auxquelles il s'empresse de répondre. Et il y répond, c'est tout l'intérêt de sa relation, il y répond avec la sagesse de quelqu'un qui se contente de dire ce qu'il a vu. Et c'est ce qui fait de ce document un document extraordinaire, Jean Castarède. Merci beaucoup, bonjour, merci d'être des nôtres.
Bonjour, vous êtes toujours aussi lyrique.
Merci.
Et quand on vous entend lire la lettre de Victor Hugo que j'adore parce que c'est véritablement une des hontes de la France. Et Victor Hugo en a profité pour régler son compte avec Napoléon le Petit.
Et évidemment, une fois de plus.
Une fois de plus. Je vous admire tous les jours en vous écoutant tous les jours.
Vous êtes vraiment trop gentil. La destruction du palais d'été, c'est donc ce que vous rééditez chez France Empire. D'ailleurs, il faut saluer toutes les rééditions de ces textes historiques qui sinon auraient tendance à se perdre dans les bibliothèques, si je puis dire. Nous avons tous nos bibliothèques pleines de très beaux récits comme ça, mais qui, lorsqu'ils ne sont pas réédités, finissent par quasiment tomber dans l'oubli. Donc c'est bien d'avoir remis ce texte à l'honneur. Alors, le comte d'Hérisson, qui était-il d'abord et quelle était sa position dans toute cette campagne? Il faut le situer, ce brave homme.
Alors, c'est un peu un conte de fées. C'est un simple soldat. Il a effectivement terminé colonel, comme vous le rappelez, mais également diplomate. Mais c'était un simple soldat qui faisait son service militaire en Italie. Et un jour, par piston d'ailleurs, parce qu'il avait appris que cette campagne en Chine se préparait, il est appelé auprès du général de Montauban et il devient son interprète adjoint et il terminera comme secrétaire général du général de Montauban. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, il va écrire
Oui, il a une plume très alerte, on s'en est rendu compte.
Il écrit remarquablement bien. Il a publié un livre que je vais publier dans quelques temps, où il raconte que c'est lui qui a empêché la destruction de Paris avec Bismarck en 1870. Et là aussi, il se donne le beau rôle, car il a toutes les qualités. Il est un peu immodeste, mais grave. Le comte d'Hérisson s'est trouvé là par hasard et il a raconté heure par heure, si j'ose dire, à la fois le voyage pour aller en Chine, ça a été un petit peu long et dans cette réédition je l'ai réduit, mais c'est surtout la campagne de Chine qui est absolument extraordinaire, on croit y être, et quand il décrit son arrivée à Hong Kong, son arrivée à Shanghai, son arrivée ensuite à Pékin et ce sac dont Pierre-Jean Rémy a fait un livre, puisqu'il en a obtenu le prix Renaudot, grâce au premier poste qu'il occupait en tant que diplomate dans le début des années 70. Le comte d'Hérisson est véritablement un grand auteur et un grand écrivain.
Alors, si l'on parle rarement de cette campagne de Chine, d'abord c'est parce que, évidemment, on n'y a pas joué un rôle très, très flatteur, mais c'est surtout parce qu'on ne comprend pas bien ce que Napoléon III allait faire là-bas. Autant la campagne de 59 en Italie a un but politique très précis et a eu des conséquences politiques majeures pour l'équilibre européen, autant l'aventure mexicaine, même si elle a fini dans des conditions très tragiques, peut se comprendre, autant là, on ne voit pas bien quelle est la position de l'empereur des Français. Que font les Français en Chine en 1860?
Alors, le comte d'Hérisson a une thèse que je vous livre. Je ne suis pas assez historien pour savoir si elle est vraie ou non. Il semblerait que Napoléon, et là, ça, il faut rendre hommage à son sens visionnaire, qui n'a pas été jusqu'au bout, malheureusement, sentait déjà la menace de l'Allemagne. Et qu'il s'était dit qu'une bonne alliance avec les Anglais le protégerait de ce côté-là. Vous vous souvenez que son épouse ne s'était pas entendue avec Bismarck il était ambassadeur en France. On dit même qu'elle le plaçait systématiquement en bout de place, en bout de table. C'est un conseil d'ailleurs que je donne au Quai d'Orsay de ménager les ambassadeurs, parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils peuvent devenir.
Généralement, ce sont des gens qui font carrière.
C'est en général des gens qui font pas carrière, et quand ils ont des postes de ministre, voire de chef d'État, ça se retourne contre la France. Donc, il s'est prémuni contre ces dangers allemands en faisant alliance avec l'Angleterre. Et puis, comme Napoléon III était un peu affairiste, il s'est dit que la guerre de l'opium, la récupération d'un peu d'argent, c'était pas une mauvaise chose pour les affaires françaises. Donc, c'est une alliance franco-anglaise contre les Allemands, dit le comte d'Hérisson.
Et c'est une alliance qui vise, en tout cas les opérations qui vont être menées, visent à faire plaisir aux Anglais, en quelque sorte, et à essayer de bien placer la France sur un plan commercial où nous avions déjà du retard. Et là, le Second Empire, évidemment, est très sensible à cet aspect.
Et sans doute très intelligemment, parce que c'est vrai qu'en dehors de l'ex-Indochine, nous étions assez mal placés dans ce territoire. On a bien eu le grand quartier de Shanghai ensuite, c'est un peu une des retombées de cette guerre, mais ça n'était pas suffisant.
Alors, que sont devenus, d'abord, que s'est-il réellement passé au Palais d'été, et que sont devenues toutes les merveilles qui abritaient cette extraordinaire ville impériale, car c'était ça le Palais d'été, c'est ce que nous allons voir dans un instant.
Jusqu'à 14h sur Europe 1, plongez au cœur de l'histoire. Avec Franck Ferrand.
Et aujourd'hui, Franck, vous nous parlez de la mise à sac du palais d'été de l'empereur de Chine.
Eh oui, c'était les 18 et 19 octobre 1860. Le palais d'été, ces jours-là, est littéralement livré aux flammes de manière ordonnée, méticuleuse. Deux jours et deux nuits ne suffiront pas à réduire la merveille en un tas de cendres. Rien ne sera épargné, pas même cette richissime bibliothèque impériale dont je vous disais un mot tout à l'heure. C'est ainsi que vont disparaître les plus précieux manuscrits de l'Antiquité chinoise, plus de 10 000 ouvrages, dont certains, je dis 10 000 ouvrages, mais dites-vous que certains de ces ouvrages comptaient à eux seuls 5 000 volumes. C'est un auto-da-fé sans exemple, peut-être pire finalement, ou en tout cas aussi grave que l'incendie célèbre de la bibliothèque d'Alexandrie. Alors, évidemment, cet incendie, ce pillage vont avoir des conséquences assez terribles. D'abord, des conséquences politiques. Le prince régent chinois capitule, il traite sans condition, il accepte de verser à la France et à l'Angleterre de très lourds dommages de guerre. Mais pour l'Occident, c'en est fini et c'en est définitivement fini du respect des Chinois. Quand elle quitte Pékin début novembre, l'alliance franco-britannique fait figure littéralement de monstre. En Europe, la nouvelle des succès militaires de l'expédition est accueillie triomphalement. Il ne faut pas oublier cet aspect. On acclame les vainqueurs. Lord Elgin sera bientôt nommé vice-roi des Indes. Le général de Montauban, je vous l'ai dit, a été fait comte de Palikao. Quant aux richesses pillées, Que sont-elles devenues? Eh bien, en vérité, ce que les hommes de troupes ont emporté n'a souvent pas quitté la Chine. Des merveilles ont été rachetées par les marchands chinois qui ont profité de l'aubaine. Certaines pièces de très grand prix vont finir tout de même dans les salons provinciaux de petites maisons françaises. Elles alimentent encore aujourd'hui, et j'ai pu en juger, le marché des antiquités d'Orient. Et parmi les voix trop rares qui vont s'élever contre ce qui s'est passé, il y a celle de Victor Hugo, que je ne résiste pas au plaisir de vous la faire entendre une fois encore. « Un jour, écrit Victor Hugo, deux bandits sont entrés dans ce palais d'été. L'un a pillé, l'autre a incendié. La victoire peut être voleuse à ce qu'il paraît. Devant l'histoire, l'un des deux bandits s'appellera la France, l'autre s'appellera l'Angleterre. » Alors, il y a donc trois, on pourrait presque dire quatre aspects à évoquer, Jean Castarède. L'aspect politique, on peut le mettre de côté, la victoire franco-britannique sur la Chine, c'est une chose entendue. Il y a l'aspect militaire, et si vous voulez bien cet aspect militaire, on y reviendra tout à l'heure pour parler de la façon dont a été conçue et accueillie la nouvelle de cette victoire. Double victoire. Et puis, il y a la question, évidemment, patrimoniale. Le palais d'été a été irrémédiablement saccagé. C'en est fini des bâtiments. Il sera reconstruit, mais d'une façon bien plus modeste par la suite.
Oui, enfin, d'ailleurs, quand on le visite en ce moment, on visite des jardins, des ruines. Ça ne correspond à rien. Quant aux objets, comme vous le rappeliez très justement, on en trouve maintenant. On peut en racheter. À prix d'or, bien sûr. D'ailleurs, le comte d'Hérisson raconte cette anecdote assez drôle où il retrouve un jour un gardien du Trianon de Versailles qui voulait le verbaliser parce qu'il était en train d'allumer un feu. Ça commençait à devenir une manie chez lui. Et il voit une médaille de l'armée de Chine et il lui dit « Mais on s'est peut-être rencontré en Chine. » Et l'autre gardien le reconnaît et lui dit « Bah, vous savez, à cause de vous, j'ai pas volé d'objets. Et résultat, je suis gardien de musée à vie alors que tous mes camarades se sont enrichis. »
Eh oui, finalement, il a été victime de sa trop grande honnêteté.
L'honnêteté ne paye pas.
Alors, nous avons en ligne Vincent Droguet, qui est conservateur au château de Fontainebleau et qui est en charge de ce qu'on appelle à Fontainebleau le musée chinois. Bonjour Vincent Droguet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au téléphone. Est-ce que ce musée chinois est en quelque sorte l'héritier du pillage du palais d'été?
J'espère que non.
C'est effectivement pour une part la réalité, mais en fait ce musée chinois recouvre quelque chose de plus complexe, puisque c'est une installation qui est due à l'initiative de l'impératrice Eugénie, qui a souhaité avoir à sa disposition des salons privés dans lesquels elle puisse réunir le soir sa société intime, des salons qui soient plus agréables, tournés vers les jardins, plus...
Voilà, il faut les situer, ces
plus
salons.
Familiers. En réalité, les salons sont situés au rez-de-chaussée du palais, tournés vers l'étang et vers les jardins. Et la cour impériale venant à Fontainebleau au cours de l'été, il est évident que le fait d'avoir un appartement de plein pied avec les jardins était quelque chose de particulièrement agréable.
Or, cet appartement est extraordinairement décoré. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sont des pièces très inspirées, très belles. Qui est l'auteur de ce décor et de cet aménagement?
Alors, on pourrait dire que c'est l'impératrice elle-même, parce qu'elle a joué un rôle tout à fait considérable dans l'aménagement, dans le décor de ses pièces. Elle avait donné pour ordre au régisseur de Fontainebleau de ne commencer à ouvrir les caisses d'objets chinois qu'en sa présence, et elle avait autour d'elle un certain nombre d'hommes de peine, pourrait-on dire, qui l'aidaient à disposer les objets, mais véritablement, c'est elle qui a choisi le décor de ces pièces, qui est un décor pour l'essentiel textile très présent, et c'est elle qui a également choisi la disposition des objets dans les vitrines, telles que ces vitrines d'ailleurs ont été reconstituées dans les années, en 1990.
Voilà, c'est ça. Il faut dire que ce musée chinois a été restauré et que ces salles sont maintenant absolument...
Voilà, le musée chinois a été restauré avec beaucoup de soin en 1990 et réouvert en 1991. Et depuis, il est donc visible pour les visiteurs du palais.
Alors revenons à la question qui fâche. Le cadre est somptueux, l'investissement personnel de l'impératrice Eugénie est manifeste dans l'aménagement de ces salles. Mais les vitrines en question contiennent des objets. Vous nous avez parlé de caisses d'objets qui étaient arrivées. Oui. D'où viennent-ils ces objets ?
En fait, le général Cousin Montauban et le général Grant ont décidé dès le 7 octobre un partage, comme vous l'avez dit, du butin entre les deux armées, et ils ont décidé également la création d'une commission mixte entre les deux armées pour faire un choix d'objets particulièrement remarquables qui seraient envoyés d'une part à la reine Victoria en Angleterre et d'autre part à l'empereur et à l'impératrice des Français. Mmh. Donc on a fait un choix d'objets qui paraissaient particulièrement remarquables et qui ont été confiés pour la partie française à un capitaine qui s'appelait le capitaine Campenon, qui a été chargé d'emporter ces objets jusqu'en France où ils sont arrivés au début de l'année 1861.
On peut parler d'un vrai butin de guerre. Alors est-ce que ces objets, vous pouvez nous en décrire quelques-uns, nous dire en quoi ils consistent ?
Donc il s'agit en gros de 400 objets chinois qui sont pour l'essentiel des objets du XVIIIe siècle, de l'époque de Qianlong, qui est considéré un peu comme le Louis XIV chinois, même si en réalité son règne correspond plus à celui de Louis XV et de Louis XVI réunis. Donc pour l'essentiel, ce sont des objets qui datent du règne de Qianlong, même si certains sont un petit peu plus tardifs, mais d'autres peuvent être plus anciens. On possède notamment une très belle coupe bleue et blanc d'époque Ming et également des objets de bronze de la même époque Ming. Il s'agit de porcelaine. Il s'agit de jade blanc, de jade vert, de cristaux, d'objets de pierre dure, et notamment de ce qu'on a appelé le fameux rosaire de l'impératrice, qui serait un cadeau de Cousin Montauban, réalisé à partir de plusieurs colliers de mandarins chinois.
Et les Chinois n'ont jamais réclamé toutes ces merveilles ?
Alors, j'ai eu l'occasion de recevoir à plusieurs reprises des délégations chinoises, des délégations officielles ou officieuses, et il n'y a jamais eu de réclamation, de demande de restitution de la part des autorités chinoises. Et je dirais même mieux, d'une certaine façon, nous avons un projet de coopération avec le Musée national de Pékin pour réaliser une publication exhaustive de ces objets. Donc j'espère que nous sommes maintenant passés plutôt au stade de la collaboration, de la coopération scientifique concernant l'étude, l'histoire de ces objets.
Eh bien, tant mieux. Nous voilà rassurés. Vous nous parliez tout à l'heure de ces séries d'été que donnaient l'empereur et l'impératrice à Fontainebleau dans les années 1860. C'était des moments de fête et de grand plaisir. En ce moment, et jusqu'au 2 juillet, a lieu une exposition à Fontainebleau, justement, sur cet art de vivre sous le Second Empire.
Voilà, une exposition qui met en lumière cet art de vivre du Second Empire et la manière dont on pouvait recevoir effectivement au château, qui était devenu effectivement sous le Second Empire et déjà depuis la monarchie de Juillet une sorte de grand hôtel très luxueux où on pouvait recevoir de très nombreux hôtes dans des séries.
Il y a d'ailleurs, pardon de vous interrompre, il y a dans certaines parties du château qui ne sont pas ouvertes toujours à la visite, encore des appartements entiers hein, où résidaient les invités de l'empereur.
Les ambassadeurs, c'est notamment ça, oui. Le couple Metternich qui était invité à toutes ces séries, puisque Pauline de Metternich était une grande amie de l'impératrice et une grande habituée du musée chinois. Et à l'occasion de cette exposition, on ouvre en visite guidée un appartement de suite qui a été remeublé tel que les invités de l'empereur et l'impératrice pouvaient le trouver, avec tout le matériel d'éclairage, de chauffage, de toilette, dont les réserves du château de Fontainebleau conservent de nombreux exemples.
Alors je le dis à nos auditeurs, puisque c'est la bonne saison, si vous voulez vous prendre pour un invité de l'impératrice Eugénie, courez au château de Fontainebleau pour partager cet art de vivre très doux de l'époque du Second Empire. Merci beaucoup Vincent Droguet, je rappelle que vous êtes conservateur au château de Fontainebleau et vous vous êtes magistralement tiré de mes questions un peu ironiques sur la provenance des objets du musée chinois. Merci beaucoup.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Les 55 jours de Pékin. L'instant sur Europe 1, c'est un extrait de la bande originale du film sorti en 1963 et composé par Dimitri Tiomkin et qui illustre le récit du comte Hérisson sur la destruction du palais d'été de l'empereur de Chine. Votre sujet du jour, Franck Ferrand.
Oui. Alors, c'est vrai que ça paraît bizarre parce qu'il porte une petite particule, hein, ce comte, évidemment. Mm-hmm. Donc, c'est le comte d'Hérisson et le nom commun en français, on dit un hérisson, deux hérissons. Hein, c'est un H aspiré, donc là, c'est une particularité. Merci encore d'avoir réédité cet ouvrage qui est titré La destruction du palais d'été, Jean Castarède, mais qui en fait raconte toute la campagne du comte d'Hérisson. C'est ce qu'il faut dire. C'est un vrai récit d'aventure que l'on a là dans les mains.
Oui, ça commence même par le moment où en Italie, il rejoint le général de Montauban. Et puis le voyage, qui est très longuement décrit dans le livre authentique et que j'ai un peu résumé.
Vous l'avez résumé, oui.
Parce que les descriptions de voyage en bateau, ça lasse un tout petit peu de nos jours. Et puis,
nous vivons dans une époque pressée.
Oui, un peu. On zappe. Et j'ai donc zappé des chapitres. Et puis, nous arrivons à Hong Kong, nous arrivons à Shanghai, puis nous arrivons dans la bataille à Pékin.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que pour les militaires qui participaient à cette campagne, il y allait de l'honneur national, bien entendu, il y allait de la nouvelle alliance franco-britannique. Tous ces gens-là n'avaient pas du tout le sentiment. Nous avons présenté ça, évidemment, j'ai parlé, moi, des dommages considérables pour le patrimoine chinois, mais pour eux, ils étaient très fiers de leur action. Or, et on le voit très bien dans le récit du comte d'Hérisson, sur un plan militaire, cette campagne est un sans-faute.
Elle a été remarquable parce qu'il se trouvait quand même devant des dizaines de milliers d'hommes, alors qu'eux étaient sans doute 10 ou 100 fois moins nombreux. En plus, sur le plan logistique, c'était pas du tout évident parce qu'il fallait amener l'artillerie, les spahis, les chevaux. D'ailleurs, des chevaux sont arrivés directement du Japon. C'était véritablement un débarquement sans faute. Ce qui a gâché, effectivement, c'est ce saccage. Mais sans ça, sur le plan militaire, on aurait pu considérer que c'était la plus grande victoire de la France au XIXe siècle.
Et cette histoire du pont de cet affrontement du pont de Palikao a été un modèle de stratégie également, faut le dire.
Oui, tout à fait. Et alors, comte d'Hérisson ne manque aucune occasion de lancer des coups de patte aux Anglais en expliquant que les Français étaient beaucoup plus astucieux à chaque instant sur le plan stratégique, tactique, etc. C'est très drôle à lire parce que on sent qu'on est dans le chauvinisme le plus grand, le plus profond. Mais ça fait du bien en ce moment de voir l'identité française un peu réhabilitée.
Alors le patron, si je puis dire, de notre comte d'Hérisson, c'est ce monsieur de Montauban, donc dont on ne parle plus en fait, le comte de Palikao précisément. Ce grand militaire français a fait les frais de la chute du Second Empire, comme tous les autres hein, du reste.
Oui, c'est sûrement très compliqué. Là, je crois qu'il y a un livre de Hérisson qui raconte un peu comment il s'est passé sa disgrâce. On lui avait promis des tas de choses, y compris une pension. Et c'est dire qu'on était quand même assez démocrate à cette époque, puisque le corps législatif a refusé de lui verser cette pension. Donc il s'est retrouvé avec effectivement un titre de noblesse, mais baron du Second Empire, c'est moins élégant que baron du Premier
Empire.
Ah oui,
ça, évidemment.
Et par conséquent, je pense qu'il est tombé dans l'oubli. Et puis c'est vrai que c'est pas glorieux, bien que le général de Montauban, au dire du comte d'Hérisson, se soit toujours opposé au pillage, à la répartition du butin,
et lui-même
n'a rien pris de son côté, pas plus que le comte d'Hérisson.
Est-ce qu'on peut dire qu'historiquement, l'incendie est dû aux Anglais plus qu'aux Français, que nous avons lutté contre et qu'on a insisté?
Non, ça c'est la thèse du comte d'Hérisson, mais comme il est très anglophobe, je n'ai aucun élément. Cela dit, il était le seul sur place, et chaque fois qu'on raconte cet épisode, on ne peut se fonder que sur lui.
Eh bien voilà.
C'est un peu facile de dire, c'est la faute des Anglais, messieurs les Anglais, vous avez tiré les premiers.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que les Anglais ont manifesté dans cette affaire une sorte de précision et d'organisation dans la répression, hein, dans l'expédition punitive que n'avaient pas les Français. Nous, on a débarqué quand je dis nous, les Français, en tout cas, on fait irruption dans le palais d'été de la manière la plus désorganisée, la plus gauloise possible. Ce qui n'a pas été le cas des Anglais, hein. Les Anglais avaient tout programmé et tout était parfaitement.
Oui, ce qui est très, très curieux dans ce récit, c'est qu'on s'aperçoit qu'ils étaient même accompagnés de gens qui avaient presque préparé l'emballage, qui préparaient les caisses de renvoi. Et Comte d'Hérisson raconte que lui s'est trouvé dans un harem entouré de 25 femmes et qu'il n'en a touché aucune, ce qui est quand même tout à fait admirable.
Il se disait peut-être que sa famille lirait la relation qu'il donnerait des événements.
Peut-être.
Le Comte d'Hérisson, la destruction du palais d'été, donc à Pékin, près de Pékin en 1860, c'est réédité chez France Empire. Merci beaucoup Jean Castaret d'être venu nous présenter cet ouvrage qui est un véritable document historique.